philosophie de l'éducation de la famille chrétienne, le 27 février 1995, par le père Marie-Dominique Philippe Arimon, premier cours.
De l'aspect politique. Une vraie politique est toujours tendue vers un développement du bien commun, un développement de l'homme dans ce qu'il a de meilleur. Et cela se fait grâce à l'éveil des jeunes pour essayer de leur faire comprendre ce que représente leur responsabilité actuelle et future. Donc, la formation de la personne, je crois que toute éducation tend vers la formation de la personne. L'éducation est premièrement familiale. C'est la famille qui est responsable de la première éducation et de l'éducation tout court. Parce que c'est la famille qui, par le point de vue de la naissance, de la procréation, implique la responsabilité d'être nouveau, de réalité nouvelle, d'homme nouveau, qu'elle met au monde et qu'elle éduque jusqu'au moment où la personne humaine, étant suffisamment développée, prendra ses propres responsabilités, ses propres orientations. Et il peut y avoir alors, à côté de la famille, des lieux propres pour l'enseignement, plus pour l'enseignement que pour l'éducation. Mais forcément, au début, les deux sont très liés, éducation et enseignement. Alors, au plan philosophique, ceci en vue de corriger ce que disent les psychologues, ou de les compléter, puisque corriger, c'est les compléter, pour ne pas être esclave de des schèmes psychologiques, qui la plupart du temps restent un peu des schèmes. Alors, il faut essayer de réfléchir au plan philosophique, étant donné que le philosophe peut seul vraiment réfléchir sur ce qu'est la personne humaine. Et les grands développements, les grandes dimensions de la personne humaine. Toute la philosophie est faite pour ça. Savoir qu'est-ce que c'est que l'homme. Et à partir de là, redécouvrir ou découvrir la nécessité de poser un être premier créateur. Et quand le philosophe essaie de comprendre ce qu'est la personne humaine. À partir de là, il se posera la question, est-ce que la personne humaine est la réalité la plus parfaite qui existe? Il essaiera de découvrir la réalité ultime, dernière, que les traditions religieuses appellent Dieu. On ne peut pas éduquer vraiment si on n'a pas cette finalité. Au moins, d'une façon un peu confuse, sans nécessairement avoir fait toute la philosophie de la personne. Alors il y aurait très peu d'éducateurs. Un père de famille, une mère de famille, ont le sens de l'éducation à cause de l'amour qu'ils ont pour leurs enfants et qu'ils désirent ce développement. Alors on a vu progressivement les développements et on était arrêté la dernière fois à cet éveil de l'intelligence spéculative. Je crois qu'il y a le premier éveil de l'intelligence pratique et de la prudence. Et cela, c'est au fond le premier moment de ce qu'on appelait traditionnellement l'âge de raison. responsable de ses actes. Et on est responsable de ce qu'on peut poser, ce qu'on peut pas, qu'on n'a pas le droit de faire. On est responsable d'obéir ou de ne pas obéir. On est responsable de l'orientation de sa vie. Et ça, ça vient très vite. Cette responsabilité, mais c'est d'ordre pratique. Et à partir de là, s'éveille une intelligence spéculative de la recherche de la vérité, qui est plus tardive. Entre deux, il y a le point de vue aussi de l'art. Alors l'art, d'une certaine manière, est tout à fait première. Un enfant joue, un garçon joue à édifier des choses. Si la petite fille aime les poupées, le petit garçon aime construire, faire. Et donc c'est le premier réveil d'une intelligence. Ordonner les divers matériaux, même s'il ne sait pas très bien ce qu'il fait, il y a quand même cela. L'intelligence prudentielle. Et je crois que lorsque l'intelligence prudentielle s'éveille, il y a de nouveau quelque chose d'artistique qui apparaît. Il y aura une espèce d'art qui accompagne toujours l'éducation. Pour les Grecs, c'est très net. On ne peut pas l'éducation de l'art. Ça, c'est un problème qui serait très intéressant à bien étudier. Et c'est toujours les rapports entre l'intelligence artistique, l'intelligence du facere et l'intelligence de l'agere prudentielle. L'intelligence affective qui prend en main toutes les qualités que nous avons pour mieux les orienter. L'intelligence qui accepte d'obéir pour aller plus vite. On a besoin de nous appuyer sur des aînés. Aujourd'hui, je sais très bien qu'en raison de toutes les idéologies qui ont pénétré, on a beaucoup plus de peine, ça. On a tellement attaqué l'autorité, on a tellement attaqué l'obéissance, que c'est dans l'air, même si on ne sait pas très bien, mais c'est dans l'air. Et ça reste malgré tout, parce que c'est un appétit naturel. Naturellement, l'homme est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il va beaucoup plus vite quand il s'appuie sur quelqu'un de compétent. Et cette autorité de compétence, c'est la dernière, d'une certaine manière. C'est aussi la dernière qui demeure. Je crois que si on a de la peine d'accepter des autorités paternelles, affectives, des autorités religieuses, il y a une autorité qui demeure, c'est l'autorité de compétence. C'est très simple, c'est que l'autorité de compétence, quelqu'un qui se révolte contre l'autorité de compétence, on lui dit tout de suite, allez-y, faites ça tout seul, puis on verra les résultats. Et par les résultats, il s'aperçoit qu'il perd du temps. Je me souviens, ça m'avait beaucoup frappé. C'était du temps où on voyait encore des forges dans les petits villages. Et alors, il y avait un jeune qui venait comme ça, de la ville, qui critiquait Forgeron, qui était quelqu'un de 45, 50 ans. L'écoutait, continuait de travailler. Puis au bout d'un certain temps, il était agacé. Alors, il s'est arrêté, il les a regardés. Voilà, maintenant travaillez. Si vous savez faire ce que je fais, vous aurez le droit de me parler et de me critiquer. Mais je veux voir ce que vous faites. toujours faire ça. Dans l'enseignement, on a autorité. C'est une autorité de compétence. Un professeur qui est compétent se fait toujours obéir. Parce qu'il peut toujours faire ça. Il y a les examens qui maintiennent, voyez, le sucre à une certaine hauteur pour que le chien saute pour l'attraper. Et alors, ça permet de rebondir tout le temps indéfiniment. Ça le maintient en haleine. C'est l'autorité de compétence. Le maître qui donne à manger à son chien, qui a une autorité de compétence pour le chien. Et à ce point de vue-là, il est attaché. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs personnes qui donnent la nourriture. Si on veut être vraiment le maître, il n'y en a qu'un qui donne la nourriture. Et le chien est attaché comme ça. Et on en fait ce qu'on veut après. Autorité de compétence. Et puis alors, une autorité naturelle qui est beaucoup plus difficile. L'autorité affective de la mère, du père. Et cette autorité affective, c'est l'autorité religieuse. Donc c'est beaucoup plus délicat. Diotime, dans Platon, a une autorité d'initiation religieuse, compétence et entièrement affective. Alors c'est dans ce contexte qu'on avait essayé de découvrir quel est le moment premier de l'intelligence spéculative. L'intelligence spéculative, c'est l'intelligence qui cherche la vérité pour elle-même. Le vieil Aristote fait cette remarque que j'aime beaucoup. Les mathématiques sont nés en Égypte, où la caste sacerdotale avait des loisirs. C'est très joli, et c'est très bien dit ça. Parce que la première connaissance spéculative, la plus fondamentale, c'est les mathématiques. Ça, je crois que c'est historiquement ce qu'on voit. Et on comprend ça très bien. Parce que c'est l'intelligence liée à l'imagination, au très grand sens du mot, qui nous donne les possibles. Les mathématiques, c'est dans l'ordre du possible. Et génétiquement, dans l'ordre génétique, on saisit d'abord le possible avant de saisir l'acte. Ça, c'est encore une remarque très profonde d'Aristote. Quand il voit que l'acte est antérieur à la puissance, dans l'ordre de perfection. Mais dans l'ordre génétique, la puissance est antérieure à l'acte. Donc, la connaissance du possible est antérieure à la connaissance de ce qui est. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Mais c'est l'imagination qui nous porte, mais une imagination toute transformée par l'intelligence. C'est pas l'imagination romantique. C'est une imagination liée à l'intelligence. Notre intelligence, elle naît à partir des images. Et elle purifie ces images. Et ces images, elle peut les purifier d'une façon telle qu'on est en présence de choses possibles, des relations possibles. Ce sont des relations possibles que l'intelligence saisit. Et l'intelligence spéculative va naître à partir de ces possibles. Tout progressivement, il va y avoir naissance des mathématiques. Vous voyez, il y a le fondement réel des mathématiques. Il y a cette part imaginative. Au très grand sens du mot. Et ensuite, la synthèse qui se fait et qui permet d'avancer au point de vue mathématique. Mais c'est pour ça que ce qui est souligné ici est très important. L'intelligence spéculative, pour certains, les mathématiques. mais c'est la naissance d'une connaissance historique. Et la connaissance historique est toujours une connaissance qui dépasse la description immédiate et qui est une reconstruction la plus vraie possible. Mais il y a aussi toute une part imaginative, parce que ce qu'on a comme document n'est jamais totalement complet. La continuité des documents, elle n'est pas donnée. C'est l'intelligence qui l'a fait, qui l'a refait. Et là, il y a toute une part d'imagination pour arriver de plus en plus à retrouver le réel. Et on veut dépasser l'imagination. Un véritable historien ne reste pas dans l'imagination. Oui. À ce point de vue-là, c'est très différent de l'intelligence mathématique qui demeure dans les possibles. Mais le possible est intelligible. Il est possible grâce à l'imagination qui nous fait dépasser la réalité concrète et qui est l'alliance de l'intelligence et de l'image, de l'intelligibilité. Qui nous donne ce chantier énorme. Alors, je crois que c'est vrai de dire ça. Vous voyez, ce qui est très curieux, c'est que je crois qu'on retrouve tout le temps, et c'est normal, on retrouve tout le temps ce rapport entre le devenir et l'être. Dire que l'histoire c'est le devenir et il y a l'être mathématique. Alors qui serait le premier éveil de l'intelligence spéculative, l'histoire et les mathématiques? L'histoire, il y a des faits, il y a des documents. Relier, il faut du possible. Si on n'a aucune imagination, on n'avance pas. On restera devant des faits. Alors ce sera le collectionneur qui n'est pas l'historien. Très différent. Il y a des gens qui ont des collections admirables. On leur demande de donner un peu la signification des collections, ils ne savent pas. L'historien verra tout de suite des liens. Vous voyez, et des liens qui sont possibles entre les différents faits. Et le mathématicien, lui, c'est l'être possible. Il y a donc un lien très curieux. Cette dualité qui correspond très profondément, ce qu'on essaiera de comprendre plus tard, entre les liens de l'intelligence qui résonne et l'intelligence donc qui résonne et qui est logique. Cherche un ordre. On cherche un ordre dans le devenir, dans l'histoire. Et le point de vue mathématique qui cherche ce qui est premier, ou qui cherche aussi les relations, qui sont encore un ordre, mais toujours avec le souci du possible, qui est différent. Vous voyez, ce serait intéressant à voir que l'histoire de la pensée philosophique, c'est le rapport entre l'être et le devenir, tout. À ce point de vue-là, il n'y a que trois positions philosophiques, il n'y en a pas 36. Ou vous respectez les deux, Aristote, ou vous niez l'être et vous ne regardez que le devenir. Donc l'être est ordonné au devenir. Et à ce point de vue-là, le devenir n'est plus second, le devenir vient premier, et l'autre est relatif. Il est relatif au devenir égal. La position position hegelienne. Et il y a la position inverse, Heidegger, qui supprime le devenir, il le néantise pour qu'il n'y ait plus que l'être. Et donc, le devenir est néantisé pour que l'être apparaisse. Vous avez trois positions. Le devenir et l'être, la position aristotélicienne, le réalisme. Tout pour le devenir, tout pour l'être, qui sont les deux positions idéalistes possibles, qui sont deux positions idéalistes différentes. Bon, si c'est la structure profonde de mon intelligence, puisque mon intelligence est liée au sensible, si mon intelligence n'était pas liée au sensible, je comprendrais qu'il puisse y avoir l'être sans le devenir. Ou, si elle est liée à l'imagination, c'est le devenir. C'est très imaginatif, le devenir. Parce que le devenir, c'est infini, d'une certaine manière. Alors, où l'intelligence repose sur les sens, et elle accepte la réalité du devenir, et l'au-delà du devenir, par l'être. Où l'intelligence se sépare du sensible, complètement, pour n'être qu'avec l'être. Où l'intelligence se lie à l'imagination, pour être dans le devenir. Et alors ce sera le point de vue de la dialectique. Mais la dialectique, elle est née de l'absolu du devenir. Quand il y a les deux, c'est la pensée analogique. Parce que perpétuellement, on est en face des deux. Et quand il n'y a que l'être, on retrouve un primat absolu de la contemplation. Platon. Penser l'être. C'est le contempler. Il n'y a plus que cela. Bien, si ceci est vraiment la structure profonde de l'intelligence humaine, on doit pouvoir découvrir dans cette recherche comment mon intelligence se structure. Je crois qu'on doit pouvoir découvrir ces deux aspects, devenir et être, sous des aspects tout à fait premiers. Qu'est-ce qui est premier au point de vue purement spéculatif? Je crois que ce sont les mathématiques. Il y a toujours un vieux reste et un vieux lien avec les mathématiques. Qu'on peut très bien ne plus aimer, n'est-ce pas? Parce que le premier amour peut se transformer en haine. Enfin, ça va pas arriver, ça. On a été séduit par autre chose. Mais les mathématiques jouent un rôle, je crois, très très important dans le développement humain. Jusqu'à nos jours, regardez la pensée du CERN, qui joue un rôle tellement important dans la pensée moderne. Mais c'est des mathématiques. C'est des méta-mathématiques. D'où naît ensuite d'autres philosophies. Et l'histoire, parce que nous sommes des êtres enracinés dans un passé. Et alors on veut que cette histoire revienne quelque chose d'actuel. On la réactualise en voyant que ça, c'est la richesse constante qui revient. Vous voyez. Je vais demander alors maintenant aux mathématiciens s'il se souvient le premier moment de son amour mathématique. Venez ici, venez ici. On va demander après l'histoire.
Très difficile, mais je vais peut-être commencer par une petite anecdote qui va vous montrer comment on peut, en prenant pour faire des maths. Alors, vous imaginez que vous êtes dans une classe de 6e à Hanoï, au Vietnam, avec des enfants d'à peu près 10-11 ans. Alors, voici l'exercice qui est proposé. Additionner ses fractions. Bon, banal. Ce qui est beaucoup moins banal, c'est que, bon, il y a des techniques. Je parvenir là pour l'histoire. Le résultat, c'est un huitième. Alors, c'est là où commence la question. Pourquoi un huitième? Pourquoi un huitième? Alors, un petit gamin qui lève le doigt, qui dit, là, vous voyez, là, c'est en fait, c'est 4 fois 5. Là. Ici, c'est 5 fois 6. Ici, c'est 6 fois 7. Ici, c'est 7 fois 8. Ah oui, comment va-t-on exploiter ce résultat? Comment faire? Ben oui, parce que là, en fait, c'est la même chose que ça. Ce morceau-là. Parce qu'effectivement, si vous réduisez au même dénominateur, suivant les bonnes règles de votre enfance, 7 fois 5, 5 fois 4, vous pouvez un 20e. Et après le suivant, ben oui, vous avez 4 fois 5. Et 5 fois 6, on va continuer à jouer. Alors on va écrire 1 cinquième moins 1 sixième. Et après on va écrire 1 sixième moins 1 septième. Plus 1 septième moins 1 huitième. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant on joue autrement. J'ai soustrait ça, puis je le rajoute. Donc ils vont disparaître ces deux-là. Je le soustrais, je le rajoute. Ces deux-là vont disparaître, celui-là et celui-là. Et maintenant, j'ai un quart moins un huitième. Mais un quart, c'est deux huitièmes. Deux huitièmes moins un huitième, ça fait un huitième. Attendez, c'est que l'exercice d'après, c'était le suivant. Vous allez voir comment on arrive à faire les mathématiques tout de suite. Alors maintenant, prenons l'exercice suivant. 1 sur 1 multiplié par 2, plus 1 sur 2 multiplié par 3, plus 1 sur 3 multiplié par 4, plus etc., etc. Tout ça sur 99 multiplié par 100. Combien ça fait ça? Combien ça fait? Vous voyez tout de suite, vous avez le résultat. Hein, regardez, 1 sur 4 fois 5, vous avez pris le premier, quart, ensuite le huitième, donc ce sera 1, moins 1 centième. 1 moins 1 centième. Donc ça fait 99 centièmes. Voilà le résultat. Bien, je pense que c'est à cause de ça que j'ai fait des maths. Vous n'avez pas envie de jouer?
C'est un grand jeu.
D'abord, c'est un jeu. D'abord, c'est un jeu. C'est un jeu intellectuel. Bon, d'abord, il y a une beauté. Il y a une chose c'est assez extraordinaire. On voit des chiffres devant soi, les chiffres s'arrangent, et puis on obtient il y a une harmonie. Donc c'est un jeu, c'est une harmonie, il y a une recherche de... C'est aussi de la gravité. La gravité, c'est ce que vous disiez par rapport à la caste sacerdotale. Mais elle a joué par la géométrie. Moi j'ai eu la chance, et c'est le drame je crois des générations contemporaines, des jeunes qui sont en ce moment dans les lycées et les collèges, c'est qu'ils ne touchent plus au nombre, et ils ne touchent plus à la géométrie. On leur fait faire des petits jeux, je ne sais pas très bien sur quoi d'ailleurs, qui vont être mortellement ennuyeux. Moi j'ai fait des maths parce que j'ai beaucoup aimé la géométrie. Il y a des choses extraordinaires. On peut faire pulvériser des figures en faisant des transformations, alors, on transforme des droites en cercles, des cercles en droites, puis on regarde ce qui se passe, etc. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait extraordinaire. Et plus tard, on arrive dans le niveau très abstrait, c'est-à-dire il y a une subtilité dans la démonstration en elle-même, si vous voulez. C'est tout à fait l'analogie de quand vous êtes dans une paroi de montagne et que vous avez la prise qui vous fait sortir. La prise. Et il faut la voir. Et ça, c'est là où on voit qu'il y a l'intuition. Alors moi, j'ai plutôt des questions pour vous, père.
Donc, qu'est-ce que vous mettriez? Vous mettriez comme point de... Vous êtes tout à fait d'accord que... le point de départ d'une intelligence spéculative qui aime donc jouer, puisqu'au fond c'est la vérité pour la vérité.
Absolument.
Donc c'est le jeu pour le jeu.
Oui.
Et dès qu'il y a un intérêt particulier, le jeu n'est plus entièrement le jeu.
Je crois.
C'est pas. C'est ce qui tue le jeu, c'est toutes les compétitions.
Je crois. Enfin, en tout cas, la réaction des matheux professionnels que vous pouvez lire, que ce soit. Lisez les souvenirs d'André Weil, vous savez, donc le frère de Simone Weil, la philosophe, ou lisez même les... Bon, vous savez, il y a puisque nous avons cher ami anglais ici, vous savez qu'il y a une démonstration d'un théorème de Fermat qui a été donné par Andrew White, qui est anglais, qui était professeur à Cambridge, qui a donc démontré un résultat tout à fait amusant. Vous pouvez essayer de chercher, on a mis trois siècles et demi avant de trouver. Il y a 1500 pages de démonstration. Vous voyez, c'est de la quintessence d'intelligence. Alors, c'est un problème qui remonte, c'est le vieux problème de Pythagore. Vous savez, Pythagore, vous prenez un bras pliant de rectangle, tout ça. Bon, vous savez très bien que quand vous voulez calculer le carré de ce côté-là, eh bien, il faut prendre la somme des carrés des côtés. Bon, ce qu'on appelle le théorème de Pythagore, c'est que vous appelez A, B, C, vous allez écrire A2 plus B2 égale C2. Alors, il y a des triangles, ce qu'on appelle pythagoriciens. Bon, bras triangle pythagoricien, vous en avez un, si vous prenez 3, 4, 5, ben ça marche. C'est-à-dire que 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 5 au carré, effectivement. Ça marche bien. 9 plus 16, c'est bien égal à 25. Alors le problème, c'est trouver tous les triangles pythagoriciens. Vous savez, les Chinois connaissaient ça. Les Chinois vérifient l'orthogonalité des angles des murs, comme ça. Ils mesurent 3 pas, 4 pas, ils joignent les deux points. S'il y a 5 pas, bien ils sont à l'orthogonalité. Vous savez ça ? Pratiquement 4000 ans avant notre ère. Problème, vous voyez que j'ai déjà écrit ça sous une forme algébrique, c'est-à-dire que je commence déjà à écrire des choses qui sont d'une autre nature. C'est-à-dire que j'écris des lettres à la place des chiffres, je peux particulariser avec des valeurs, et puis j'ai 2, ici, 2, 2, 2. Alors j'ai plus envie d'avoir 2 maintenant, j'ai envie d'avoir n'importe quoi. Alors je vais écrire, de la même manière que 3 est devenu A, 4 est devenu B, 5 est devenu C, je vais écrire... Évidemment, AN plus BN égale C puissance N. C'est-à-dire je vais prendre N égale 3, N égale 4, etc. Alors le problème de Fermat, c'est est-ce que je peux trouver des triplets comme les Pythagore, comme les 3, 4, 5, avec n'importe quelle valeur de N? Et c'est ça le problème de Fermat. Alors en 1650, dans une marge d'un de ces manuscrits, il met j'ai la solution de ce problème, mais j'ai pas la place ici pour mettre la solution. On cherche toujours. On a pu chercher grâce à Andrew White. Donc, on a trouvé que, effectivement, pour n supérieur ou égal à 3, il n'y a pas d'autre solution que 0, 0, 0. 0 puissance n plus 0 puissance n, c'est bien égal à 0 puissance n. On dirait que c'est comme la servante du professeur Cosinus, que d'énergie pour arriver à un si petit résultat. Mais non, mais c'est un bon test, parce que c'est là où on voit les jonctions d'un certain nombre de théorèmes et de résultats et de mondes mathématiques, si vous voulez, qui se joignent et qui montrent la puissance actuelle des outils. Ben on sait maintenant donner une solution à ce problème. Vous allez me dire, l'application de la vie courante, c'est pas tout à fait clair. Alors, il y a des applications qui sont plus amusantes, parce que si vous voulez les amuser, par exemple, classifier les nœuds de cordage. Prenez des nœuds. Bon, vous avez des nœuds, vous savez, vous avez des nœuds de vache, des nœuds de ceci, des nœuds de chaise, etc. Quiconque a fait un peu de bateau, qui a fait un petit peu de montagne, on sait qu'il y a différents types de nœuds. Pas simplement votre petit nœud pour mettre vos chaussures. Alors essayez de savoir si vous pouvez transformer un premier nœud dans un autre nœud. Hein? Est-ce qu'on peut les transformer dans un autre nœud? Ben, la réponse est, c'est pas toujours possible. Il y en a où c'est possible. Mais il y a quelqu'un, qui est Vaughan Jones, qui est un Australien lui, qui a fait la classification des nœuds de cordage. Il les a classifiés à l'aide d'opérateurs polynômes, qui en fait ont classifié des tas d'équations différentielles de la physique. Donc on joue, ce qui est la question que je vous pose, comment se fait-il qu'en jouant, on retombe sur des résultats tout à fait extraordinaires qui sont maintenant du concret. Quand on demande à un mathématicien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on lui demande qu'est-ce qu'il fait, mais il dit joue. Hein, André Weil a dit surtout les mathématiques les plus pures possibles, les plus loin possibles de l'application. Donc vraiment, c'est le jeu pour le jeu. Et Dieudonné, la même chose dans ses œuvres complètes, c'était vraiment ça le thème. Plus c'est abstrait, plus c'est gratuit pour la gratuité, mieux nous nous portons. Et pourtant, à la sortie, ouf, hein, c'est les quaternions, vous savez, dans le livre, quand on en parlait ensemble, les quaternions d'Hamilton. Vous construisez un objet mathématique qui est, pour lequel la multiplication n'est que 2 fois 3 n'est pas égal à 3 fois 2. Bon. Dans le courant, c'est pas tout à fait passionnant. Il se trouve que ces quaternions ont été retrouvés par Pauli quand il a décrit le spin de l'électron. C'est-à-dire fond, vous savez, mais bon, c'est faux du point de vue de la description, mais enfin, disons, en première approximation, donc cette particule qui tourne autour du noyau dans l'atome et qui tourne comme une toupie. Vous pouvez la décrire, si vous voulez, vous avez des nombres, et ces nombres auront la propriété que 2 fois 3 n'est pas égal à 3 fois 2. Or, Hamilton trouve ses résultats en 1830 en Irlande, et Pauli met ça en évidence pratiquement dans les années 1914, à peu près après la guerre. Alors, comment se fait-il si j'ai cette concomitance entre des résultats qui sont extrêmement éloignés? Parce que quand Hamilton a trouvé ce résultat, on a mis une grosse étiquette, on a mis quaternion d'Hamilton, il dit c'est une bête bizarre, dans un placard, ne plus toucher. Et puis il se trouve qu'elle ressort. Manière, c'est un peu un cul-de-sac, si vous voulez, les quaternions d'Hamilton.
C'est là où l'histoire intervient.
Voilà, monsieur. Réflexion.
Et alors, pour vous, c'est ça. Mais comment? Moi, je repose la question. Comment cet éveil du jeu des choses possibles, mais en harmonie? C'est pas du jeu point de vue hasard. C'est toujours un ordre, une harmonie qu'on cherche. C'est là où on retrouve le point de vue de l'intelligence. Et le fameux adage ancien, le propre du sage, c'est d'ordonner.
Ah, c'est vrai. C'est vrai. Là on retrouve tout à fait... Ouais. On voit que la mathématique est fondamentalement dans le monde scientifique.
Oui, c'est ça.
C'est la classification. Oui. On va classifier des surfaces, on va classifier des noms, on va classifier... Des objets, on va classifier des structures et on va construire des différents types, si vous voulez. C'est par exemple, de nouveau, un problème qui est ouvert, celui-là, donc on ne connaît pas la solution. Je vous donne une très bonne occupation pour une soirée. On a une sphère, bon, vous voyez. Vous avez déjà vu, bien entendu, donc un anneau. L'anneau. Alors vous voyez bien que l'anneau, il a en fait deux possibilités. Vous pouvez tracer sur cet anneau soit un cercle qui passe du petit de l'intérieur à l'extérieur, comme ça, mais cet anneau, vous allez pouvoir le déformer, si vous voulez. Alors, si vous prenez celui-ci, si vous voulez, vous allez pouvoir le déformer en un point, vous allez pouvoir le déformer en passant à travers la pâte, si vous voulez. Tandis que si vous tracez sur la partie supérieure un cercle, sur le dessus, si vous voulez le déformer, eh bien, au bout d'un certain temps, vous voyez que vous allez buter sur le cercle intérieur. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas le concentrer en un point. Alors qu'ici, si vous tracez sur une sphère n'importe quel cercle, comme ceci, vous voyez que vous allez pouvoir le glisser et le faire venir au pôle, et ça va devenir un point. Vous voyez, il va glisser comme ceci, ça va devenir un point. Donc il y a une différence. N'importe quel cercle ici, vous allez pouvoir le faire glisser ici. Si vous le faites glisser, hop, ça va buter, vous n'allez pas pouvoir le déformer en un point. Donc il y a une différence, simplement d'un point de vue tactile, si vous voulez, entre cette surface, donc un anneau, et la sphère. Il y a une question qui remonte à Poincaré au début du siècle. Est-ce que la sphère est le seul objet mathématique qui a cette propriété? Est-ce que c'est la seule surface? La question est ouverte, on ne sait pas répondre. On sait répondre en dimension 4. Et au-delà. Et ça a donné lieu à des classifications d'objets mathématiques tout à fait extraordinaires qui sont ce qu'on appelle les R4 exotiques. C'est-à-dire que vous avez des espaces, espace-temps, vous savez que vous êtes dans l'espace-temps avec Einstein, et bien vous avez des espaces-temps qui ne sont pas de même nature. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a plusieurs physiques pour lesquelles les vitesses ne sont pas tout à fait... Vous voyez ? Non. C'est des résultats qui datent d'il y a très peu de temps, enfin, à peu près un an et demi. Ce sont des résultats tout à fait fascinants. À partir d'un jeu, vous voyez, qui est... Vous voyez, j'ai des petits lacets, je déforme mes petits lacets. Et ce que je peux faire, ce que je peux en dire. Donc, il y a toujours une... Si vous voulez, à partir de là, on construit bien entendu des tas d'objets mathématiques, puisqu'il y a des groupes derrière, il y a des structures abstraites qui sont derrière tout ça. Mais, comme vous le disiez, il y a... Fondamentalement une classification, c'est clair. C'est vraiment ça qui guide. Et on est bien content.
Et c'est pour ça que les solutions peuvent se répondre plus tard. Parce qu'il y a toujours quand même une continuité.
Oui, c'est vrai, mais ça pose, si vous voulez, ça pose un problème beaucoup plus radical, c'est le problème du sens par rapport à la science. Pourquoi est-ce que la science est possible ?
La science moderne, pas la philosophie.
Non, non, la science moderne, la science, la science moderne. Pourquoi est-ce que, c'est ce qui
grâce fascine Einstein. Grâce aux mathématiques. C'est les mathématiques, c'est pas la science qui disparaît.
Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a une possibilité de faire des mathématiques qui donnent un sens à la science ?
Parce que nous sommes une intelligence liée à l'imaginaire.
Oui, mais on retombe quand même sur le réel.
Quoi ? Ah oui, mais l'intelligence et l'imagination, c'est le réel. C'est un réel. C'est pas le réel tout court.
Oui, mais on pourrait imaginer, si vous voulez, que quelqu'un fasse une théorie des queues de cerises en dimension 27.
Oui.
Bon, bien, il serait amusé.
Il serait amusé. Bon,
mais ça n'aurait pas l'impact, si vous voulez, que peuvent avoir des résultats comme ça. Comme ça. Retombe, oui, par exemple, ça retombe sur des problèmes de physique. Donc des problèmes concrets.
Est-ce que fondamentalement, c'est pas toujours ce lien entre le point de vue de l'image, de l'imagination, fruit de l'imagination, au très grand sens, et l'intelligence. Et c'est toujours ce rapport entre les deux qui est au fond le fondement de toutes les réalités de notre monde physique. Il y a un fondement commun dans tout notre monde physique. Qu'on peut mesurer. Et que celui-là demeure. Et que, par des coïncidences, alors c'est ça qui serait intéressant de voir, on retrouve le réel. Parce qu'on est parti du réel. Et donc on le retrouve au terme. Si on n'était pas parti du réel, c'était purement imaginatif. Mais c'est là qu'on voit le réalisme et quand même le fondement des mathématiques, de toute science et de la philosophie. Et que l'idéalisme n'explique pas ça. Tandis que le réalisme peut l'expliquer. Parce qu'il y a eu un premier, et c'est dans ce sens-là que je crois qu'on peut dire que vraiment la connaissance mathématique est génétiquement première comme éveil de l'intelligence spéculative. Parce qu'on saisit un rapport. Ce rapport vient du réel. S'il n'est pas du réel, on ne pourrait jamais retrouver le réel. Il vient du réel, mais il s'abstrait du réel. Et en s'abstrayant du réel, il offre toutes les possibilités. Et en faisant toutes ces possibilités, qui sont limitées, forcément, ne sont pas infinies, on retrouve le point de départ. Mais il me semble que c'est ça qui fait comprendre que dans l'ordre génétique, le premier réveil de mon intelligence, c'est les mathématiques. Et c'est pour ça que c'est si important pour l'éveil de l'intelligence de donner aux mathématiques leur vraie signification. Ce que vous disiez tout à l'heure, on donnait avant une vraie signification mathématique qui donnait l'intérêt à cela. Vous voyez, cette petite phrase d'Aristote que je trouve admirable, dans ses métaphysiques, pour montrer qu'il existe une connaissance spéculative, métaphysique donc au terme, les mathématiques au début, la métaphysique au terme. Vous voyez ? Et là, on se rejoint. Et je suis persuadé que toute métaphysique vraie implique au point de départ une mathématique. Et alors, Aristote dit ce simple fait, on aime de regarder, de voir, d'où il y a un plaisir dans la connaissance, une joie, un jeu. La connaissance nous réjouit quand on dit que la sagesse joue avec les hommes. C'est quand même quelque chose, ça c'est le livre de la sagesse. Alors, la sagesse joue avec les hommes. Ça prouve qu'au fond, la sagesse a toujours en elle quelque chose de désintéressé et d'une recherche d'une vérité qu'on ne saisit pas tout de suite, mais qui plaît. Parce que pour moi, c'est la même affirmation d'Aristote. On aime de voir. Il y a un plaisir à voir, donc un jeu. Parce qu'au fond, l'enfant n'aime que jouer. Dès que vous êtes dans été bien enseigné.